Vous écoutez
RMC.
C'est une enquête désormais pour assassinat qui est menée à Romans-sur-Isère.
Oui, rebondissement. 3 jours après la mort d'un adolescent poignardé dans le quartier sensible de la Monnaie de cette ville de la Drôme, il y a désormais 4 suspects en garde à vue. Et Lucas Laubert, on en sait plus sur le contexte de cette agression. Tout serait parti d'un différend quelques jours plus tôt.
Oui, une altercation filmée entre 2 jeunes. Le père de l'un d'eux décide alors de mener une expédition dans le quartier de la Monnaie, où habite celui avec qui son fils a eu un différend. Il l'emmène avec lui, ainsi que son fils âgé de 27 ans, et l'incite à affronter et corriger cet autre jeune mineur, indique le procureur de Valence. Une bagarre éclate. Zakaria, un adolescent jusque-là spectateur, s'interpose. Le fils aîné sort un couteau et lui porte un coup mortel. Le père de famille décide alors de prendre la fuite avec ses 2 enfants. Finalement, ils se sont tous rendus hier et ont été placés en garde à vue. Mercredi, une autre personne avait été arrêtée. Elle est soupçonnée de les avoir aidés dans leur expédition mortelle.
À Bordeaux, c'est bien la thèse de l'altercation liée à l'alcool qui est privilégiée. Confirmation de la procureure de la République à Bordeaux hier, Frédéric Porterie. Après l'attaque au couteau de mercredi soir qui a fait 1 mort, 1 blessé, l'assaillant, ressortissant afghan de 25 ans, qui a été abattu par la police, en serait pris à eux et à un autre groupe auparavant parce qu'il consommait de l'alcool.
Un individu leur reprochait à l'un et à l'autre de boire alors que c'était l'Aïd. Le mis en cause frappait dans un premier temps les 2 victimes à coups de poing. Ces dernières se relevaient puis lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles, sortait un couteau à cran d'arrêt et les poignardait tour à tour. L'auteur s'éloignait ensuite en direction du pont de pierre. Un équipage de 3 policiers demandait au mis en cause de lâcher son arme à plusieurs reprises. Le suspect se dirigeait vers eux, couteau à la main. L'un d'entre eux faisait alors usage de son arme et neutralisait l'agresseur.
Ce nouveau scandale dans la police à Marseille, on vous en parle depuis hier matin sur RMC, visant l'office anti-stupéfiant, perquisitionné en fin de semaine dernière pour des soupçons de corruption, la disparition d'une grosse somme d'argent, hein, selon le journal Le Parisien. En pleine guerre contre le trafic de drogue, Marion Dubreuil, vous avez des précisions?
Oui, alors que les policiers anti-stup sont extrêmement mobilisés par les opérations PlaceNet, les enquêteurs de l'IGPN ont perquisitionné l'office anti-stupéfiant de Marseille. Ils ont saisi des téléphones et des ordinateurs dans le cadre d'une enquête ouverte en janvier dernier pour des soupçons de corruption. D'après nos informations, ces investigations de la police des polices portent sur une enquête menée l'an dernier. La gestion d'un informateur pourrait être remise en question. Lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat sur le narcotrafic, le procureur de la République de Marseille avait dénoncé, je cite, une corruption de basse intensité sévissant dans la police et la justice. Le nombre d'enquêtes pour corruption menées par l'IGPN a quasiment doublé entre 2021 et 2022, passant de 30 à 56.
La crise de l'énergie, l'essor des véhicules électriques, voilà ce qui explique l'annonce choc du pétrolier ExxonMobil qui va réduire ses activités dans sa raffinerie Esso de Gravenchon en Normandie. Ce n'est plus économiquement viable selon le groupe qui évoque 500 millions d'euros de pertes depuis 2018. Pour Gravenchon, 677 emplois sont menacés sur place. Il y a 8 raffineries dans le pays. 2 sont détenues par ExxonMobil qui met en vente également sa raffinerie Esso de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Mise en vente également de 2 dépôts pétroliers à Toulouse et près de Lyon. Terrible nouvelle pour les salariés et leurs familles, dit le ministre de l'Industrie, Roland Lescure. Les yeux qui piquent, le nez qui coule. On a des chiffres ce matin sur les allergies au pollen. Les 3/4 du pays sont en alerte rouge. Plus 21% de recours à SOS médecin et plus 12% de passage aux urgences la semaine dernière. Et alors, en plus des allergies, c'est encore les montagnes russes au niveau des températures. On va frôler les 30 degrés aujourd'hui, demain, dans le sud de la France, à Paris aussi. Hein, 27 degrés sont annoncés demain en région parisienne. Avant de retomber dimanche, il fera 10 degrés quasiment de moins. Et donc, cette éternelle question, on ne sait plus comment s'habiller, Cassandre Brault.
Chemise ouverte, en terrasse, mais son pull jamais bien loin. Ajar supporte mal ces écarts de température.
Bah, un petit peu, enfin, j'ai remarqué que le matin il faisait pas mal froid et qu'après ça a commencé à se réchauffer dans l'après-midi. C'est pour ça que j'ai un t-shirt, mais j'ai un pull aussi.
En vérifiant la météo sur son téléphone, Karine constate aussi ces variations de température.
Donc je suis équipée pour le beau temps et le mauvais temps. J'ai les lunettes de soleil sur la tête, le foulard, la petite doudoune, le petit pull. Et puis si toutefois bah, j'ai un t-shirt en dessous, enfin voilà, on est équipé.
Pour anticiper et ne pas se faire surprendre, Michel a sa petite astuce.
L'habitude de motard, notamment, de regarder la météo agricole, notamment, pour vous faire rire. Ce qui est vrai, en plus. Hein, voilà.
Bah parce que c'est la plus précise.
Plus de 10 degrés d'écart par jour cette semaine. Pas facile de s'y retrouver pour s'habiller. Alors la styliste Aloïse Guinu recommande...
C'est de multiplier les couches, mais pas les couches qu'on ne peut pas montrer comme en hiver, mais les couches où on peut toutes les montrer jusqu'à avoir une couche de base légère. Qu'en fait, à tous les stades de ce qu'on enlève... on soit confort et que ce soit joli.
Elle conseille également d'éviter la laine et la grosse maille et de favoriser les matières légères comme le coton.
Les déménagements ont commencé. Une centaine d'étudiants, les premiers, tiens, quittent leur logement là, depuis quelques jours, leur logement du Crous en raison des réquisitions pour les Jeux Olympiques. 3 000 étudiants seront concernés par ces réquisitions. Tiens, à propos des Jeux Olympiques, Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel de RMC et BFM TV. Ce sera lundi matin, de 8h20 jusqu'à 9h, le président qui répondra aux questions d'Apolline à 100 jours des Jeux Olympiques. Vous aussi, les auditeurs d'RMC pourront poser leurs questions, Charles.
Évidemment, vous vous inscrivez, il y a une adresse mail, hein, vos questions @rmc.fr, le 32-16. Et dès maintenant d'ailleurs, on vous attend à 100 jours des JO, vos attentes, vos craintes, toutes les questions, les transports, la sécurité, la cérémonie d'ouverture et puis évidemment... nos athlètes, votre enthousiasme à 100 jours des JO, ça se passe dès ce matin au 32-16.
Trois défaites en trois matchs pour les trois clubs français qui jouaient en Coupe d'Europe cette semaine, c'est pas terrible. Hier soir, c'est Marseille. Marseille qui a perdu 2-1 chez le Benfica à Lisbonne en quart de finale aller de Ligue Europa, avec finalement des supporters marseillais qui ont pu assister au match. Ils avaient pris la route pour le Portugal sans savoir si les autorités portugaises les laisseraient entrer dans le stade. Ils ont finalement pu encourager leur équipe, hein, Maxime Thiet.
Oui, ils étaient environ 2000 à donner de la voix. Thomas est venu de Metz et ne regrette pas malgré la défaite.
Beaucoup d'émotions, la montagne russe. On était là, on a pris les billets d'avion, tout ça, on vient de loin. On s'est déplacé, on a tout donné.
Interdit d'accéder au stade, l'autorisation est finalement tombée à 14h. Une délivrance pour Youssef.
Compte tenu des 48 dernières heures chaotiques qu'on a vécues ici, on est resté longtemps dans l'incertitude et tout. Donc au final, bon, ça va.
Zakaria estime, lui, que le 12e homme a même permis aux joueurs de réduire le score grâce à Aubameyang.
Si on n'avait pas nos supporters ce soir, on n'aurait jamais pu aller aussi loin dans le match. On aurait peut-être pris 4-0.
Tout se jouera donc au match retour au Vélodrome en présence de supporters marseillais et lisboètes.
Match retour la semaine prochaine donc au stade Vélodrome. Dans l'autre compétition, la Conference League, Lille peut encore rêver, mais comme Marseille, Lille a perdu 2-1 chez Aston Villa avec un match retour également jeudi prochain.